De vive voix. De vive voix, spécial JO, Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans De Vive Voix en mode culture et sport. Vous le savez, durant les JO, nous conjuguons le muscle et la plume, la culture physique et la culture tout court. Pour ce 8e épisode, notre invité, c'est l'écrivain Daniel Picouli. Le romancier est un fou de foot, comme il dit. Il va nous raconter ses héros d'enfance, le roi brésilien Pelé et l'écrivain footballeur Albert Camus. Avec Daniel Picouli, on va parler foot, littérature et rêve d'ascension sociale. De Vive Voix spécial JO, c'est parti. Bonjour Daniel Picouli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous l'avez déjà raconté, vous l'avez aussi écrit. Vous avez 10 ans et jamais vous n'oublierez ce jour-là, la Coupe du monde de foot, le 29 juin 1958, que remporte le Brésil face à la Suède. Et là, vous n'avez de yeux que pour lui, le footballeur brésilien Pelé. Il n'a que 17 ans et vous 10. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ce jour-là, Daniel Picouli?
Je me dis que c'est incroyable avoir 17 ans. Enfin, j'avais un frère qui est à peu près de cet âge-là, et je m'imaginais mon frère champion du monde de football. Mon frère joue au football, Serge, il était un très très bon ailier droit à Villemomble-Sport, hein, c'est là qu'on habitait, à Villemomble, et c'était assez difficile à imaginer en termes d'âge, et puis c'était très loin, et il y avait un truc mystérieux chez les joueurs brésiliens, c'est qu'ils avaient des noms qui étaient très simples. Pelé, Vava, Didi, c'est-à-dire que c'était facile pour nous dans la cour de récréation de se donner des surnoms, alors que, on le sait, les noms brésiliens sont au contraire extrêmement compliqués. Et Pelé, c'était aussi cette idée qu'il n'avait pas besoin d'être un monstre physiquement, c'est l'impression qu'on avait, pour être un grand champion.
Oui, il avait un physique plutôt normal, hein, on va dire.
Ouais, on va dire ça, il était normal, mais avec une détente ascensionnelle. Et là, je sais que mon frère avait mis un trait sur le mur. Il y avait la détente ascensionnelle de Pelé, ce qui a d'ailleurs causé des buts quasi mythiques. Et surtout, ce qui est fou, c'est que le plus beau but de la tête de Pelé, il ne l'a pas marqué. C'est contre l'Angleterre. Ah oui, c'est contre l'Angleterre, Gordon Banks, ce fameux but de la tête de Pelé que tout le monde croit dans le but. Et Pelé dira plus tard, j'ai marqué un but, mon plus beau but, mais Gordon Banks l'a arrêté.
Vous le racontez, Daniel Picouli, gamin à l'école, vous jouez au foot. Oui. Et il paraît que vous jouez le Brésilien d'office.
Oui, voilà, c'est ça qui est formidable aussi. Moi, je sais, à Villemomble, j'étais le seul coloré de ma classe.
Métis, vous vous dites café au lait, hein, parce qu'on est en région parisienne.
En région parisienne, et il y avait deux moments où c'était un avantage concurrentiel formidable. C'est au football ou à la récré, j'étais d'office brésilien, et en centre aéré et colonie de vacances, où j'étais indien, parce qu'il y avait l'impression qu'avec deux traits de tube de dentifrice, j'étais un indien parfait.
Ah, c'est ça.
tout petit, j'étais dans ces rôles métisses-là, et donc c'était une façon de, je le comprends maintenant enfant, c'était une façon d'être au plus près de ces héros qui étaient extraordinaires, et moi j'étais un petit gamin, et j'avais la faculté de rêver de pouvoir l'être un jour. Voilà.
De devenir héros, champion, ou de devenir...
Oui, carrément. Moi j'ai toujours rêvé. Ah non, mais moi j'ai toujours dit qu'au-delà de tout, c'est champion du monde de football qui est pour moi le rêve le plus grand. Après, j'en ai eu d'autres en athlétisme et tout, mais et c'est pour ça que quand j'ai pu assister à la finale de la Coupe du Monde, être dans le stade à ce moment-là, j'ai compris ce que ça voulait dire, et je me suis dit que pendant cette Coupe du Monde-là, des gosses avaient 10 ans et des gosses en 98 et ont rêvé, et ils le racontent, ces champions qu'on a aujourd'hui dans les équipes de jeunes footballeurs, ont commencé par rêver. Il faut commencer par le rêve. Après, on verra.
Ouais, alors, il faut commencer par le rêve. Vous nous parlez de 1998, forcément. Oui. Grand moment de ferveur populaire. C'est la Coupe du Monde, comme vous le dites. Oui. Et tout se joue le 12 juillet 1998. Tout se joue à la dernière minute.
Denilson qui frappe le sixième corner de la deuxième mi-temps pour les Brésiliens. Pied gauche toujours. Et ballon écarté. Dugarry qui était venu
à gauche,
16m50.
À gauche, ils ne reviennent pas les Brésiliens.
Allez,
à gauche.
Emmanuel Petit.
Allez, à gauche, à gauche, à gauche.
Petit et but
et troisième but
Messi qui marque à la dernière minute. Du délire dans le Stade de France, 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16,50 m qui a appelé ce ballon.
Et il ne revient pas, les Brésiliens.
Il vient crucifier l'équipe du Brésil. 3-0. Là, je crois que c'est Rapado pour nos amis brésiliens.
Rapado.
Ah oui. Oui, parce qu'il ne reste plus rien.
Et qui
on
plus
en est à 47-40.
À 10 contre 11. Les Français sont allés marquer ce but. Superbe ballon de Patrick Vieira. Et là, Emmanuel Petit, avec beaucoup de lucidité, est allé mettre ce ballon dans le petit filet opposé.
Son deuxième but en équipe de France et son deuxième but en Coupe du Monde.
C'est fini, Thierry.
Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Deux buts de Zidane. Un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Oh putain.
Ah, les commentateurs sportifs là sont partis. Hein. On peut mourir tranquille, Daniel Picouli.
Oui. Ouais, j'étais là, je l'ai vu. Moi, il est parti sur la gauche. Il y avait un espace extraordinaire devant lui. Mais ce qui est énorme, mais ce qui est dingue, c'est qu'on n'était pas si inquiet quand même. C'est le troisième but. Et moi, je me souviens qu'à la mi-temps, on était à 2-0 déjà, on était là, puis on se disait, mais c'est pas possible, parce qu'il y avait une impression de force, oui, d'impossibilité pour les Brésiliens. Je n'ai jamais été tendu, on est tendu parce qu'on n'y croit pas, tellement c'est extraordinaire. Mais il n'y avait pas de la part des Brésiliens une menace. Hein, et donc, ça nous a permis de vivre à la fois les émotions, de craindre, et puis tout à coup d'exploser. Oui, bien sûr.
Et tout à l'heure, Daniel Picouli, vous disiez, voilà, moi j'étais métisse, hein, gamin, à l'école, café au lait. À l'époque là, de 98, on parlait de la France black-blanc-beurre, hein, avec une équipe de toutes les origines. Ça vous semble loin, ce moment-là, ou ce slogan, déjà, est-ce qu'il vous plaît
ce slogan? Parce qu'en fait, on ne l'a pas resitué dans une espèce de progression historique. Hein. Il y a eu la France de Coppa, Wisniewski, c'est-à-dire de l'immigration polonaise,
oui,
dans les mines. Après, l'immigration italienne et espagnole, on a les Platini, on a tout ça, des noms de Jourdain, et après, une immigration maghrébine, et maintenant une immigration africaine. C'est-à-dire que le maître mot de tout ça, la constante, c'est l'immigration qui a nourri l'équipe de France et qui nourrit le sport français. Mmh. Et ça, c'est une richesse, et c'est comme ça qu'il faut l'avoir. Alors qu'il y ait des débats, et particulièrement actuellement, il n'empêche que la réalité est là et que ce sang-là apporté aux équipes de France vient, on le sait, souvent d'ailleurs, mais on est aussi nous un ailleurs pour les autres. Hein, donc,
forcément. Voilà, on parle foot et héros d'enfance avec Daniel Picouli. Et nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Daniel Picouli. Tout à l'heure, vous nous parliez de votre héros Pelé. Bah, écoutez, à chacun ses héros, je vous propose d'écouter justement Pelé qui parle, lui, de son papa, son père, son héros.
La Coupe du Monde de 1950 au Brésil est un souvenir très douloureux. J'avais 9-10 ans et le Brésil a perdu en finale. À l'époque, on n'avait pas la télé. Mon père, qui était joueur de foot, écoutez le match à la radio et à la fin, j'ai vu mon père pleurer. Alors je lui ai dit, papa, pourquoi tu pleures? Il a dit, le Brésil a perdu la Coupe du Monde. Alors, 8 ans après, j'ai joué en Suède et cette fois, nous sommes devenus champions du monde.
Voilà. En quoi, Daniel Picouli, l'admiration de Pelé pour son papa, ex-footballeur, hein, amateur, ça vous fascine? En quoi vous trouvez ça romanesque? Là, je m'adresse à l'écrivain que vous êtes.
Mais bien sûr, parce que remplir les rêves de son père ou de ses parents ou de la génération d'avant, c'est ça. Un sportif, quand il gagne, il vient de quelque part où on a rêvé peut-être d'être à sa place. Et beaucoup de champions ne font que simplement réaliser les rêves de leurs parents. On voit même dans les Olympiades et dans les Jeux Olympiques d'aujourd'hui que la mémoire est là. Il y a eu quelque chose de très, très, très émouvant en concours complet à cheval où quelqu'un gagne à la mémoire d'une cavalière qui a été tuée par le cheval que lui monte. Et tout le monde a ce sentiment, cette envie d'inscrire son histoire, ses rêves, ses réussites dans une histoire familiale ou nationale. Mmh. Oui, bien sûr, ça lui donne sa véritable valeur. C'est normal qu'on rêve. Moi j'ai un père qui a fait du sport, qui a été boxeur, et je me souviens comment je réveillais mon père la nuit quand il y avait les retransmissions des matchs de Cassius Clay, qui n'était pas encore d'Italie, des États-Unis, et que lui, qui avait été un champion tout à fait méconnu à ce moment-là, et il était même d'Italie, quoi. Puis voilà, c'est tout. Et c'est moi, fils, je ne pouvais pas imaginer ne pas le réveiller pour qu'il ait ce plaisir-là, alors que le lendemain, il devait aller bosser, quoi.
C'est ça, réaliser quelque part les rêves de ses parents. Alors vous, famille nombreuse, hein, vous êtes le 11e d'une famille de 13, hein.
Équipe de foot plus remplaçant.
Ah, c'est ça. Vous êtes le remplaçant ou vous êtes buteur ou vous êtes où?
Je suis le 11e, j'aurais dû être ailier gauche et j'étais ailier droit. Voilà, j'ai changé de fonction.
Daniel Picouli, je vous propose d'écouter un extrait d'une rencontre entre votre héros, toujours d'enfance, le roi Pelé, et avec Kylian Mbappé. C'était en 2009. Écoutez, voilà ce que pense le roi Pelé du prince Mbappé.
Il a une capacité à réfléchir très vite.
De pensamento rápido, mudar de jogada rápido. Então essa coisa que me chama atenção.
Il a aussi une capacité à changer de geste à la dernière minute.
Cada jogador tem uma característica um pouco mais
C'est ça moi qui m'interpelle. Chaque joueur a sa spécificité, sa propre caractéristique, et lui il est très rapide dans sa prise de décision. C'est vraiment ça un de ses points forts.
En quelque sorte, il vous a adoubé, il dit de vous que vous êtes le nouveau Pelé. Qu'est-ce que ça vous fait comme...
Bah, tu vois, comme moi, il y en a qu'un, il est là. Moi, je suis juste Kylian. Voilà, j'essaie de faire le maximum pour aider mon équipe et ma sélection. Et les comparaisons, c'est flatteur, mais je sais très bien que je ne ferai jamais ce qu'il a fait.
Daniel Picouli, que vous inspire cette rencontre entre Mbappé et Pelé, le roi et le prince, si on peut dire?
Oui, d'abord, c'est vrai que quand il est arrivé, il y a eu une ressemblance physique qui était assez troublante. Ce qui est intéressant, en fait, qu'est-ce que Pelé met en évidence? Bien sûr, la rapidité, mais l'intelligence. Il met d'abord, comme qualité suprême de Mbappé, son intelligence à comprendre le jeu, à le voir et à avoir un temps d'avance sur les autres.
Un joueur de la tête, hein, on va parler de lui comme un joueur de la tête, c'est ça?
Oui, absolument, oui. Absolument. Donc c'est ces choses-là qui, entre grands, ils savent très très bien que c'est bien sûr essentiel d'être très fort physiquement, mais d'avoir un mental, d'avoir une intelligence, c'est ce qui fait qu'on passe au niveau supérieur auquel ils sont. Ce petit plus qui n'est pas un rien fait la différence. Et ça, j'ai trouvé intéressant que Mbappé soit révélé, gratifié, distingué de cette manière-là par Pelé. Parce qu'il s'est très bien mis.
Et nous sommes toujours en compagnie de Daniel Picouli. Alors, parmi les noms qui vous inspirent, hein, on a parlé du roi brésilien Pelé, de tant d'autres, un écrivain footballeur, Albert Camus, forcément.
Ah oui.
On le retrouve là, vous allez le voir dans une archive, dans le public d'un stade de foot. On est en 1957.
Dites-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme.
Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des doigts qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué goal, je crois.
Oui, j'étais goal au Racing Universitaire Algérois, qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris.
Mais le Racing est terriblement dangereux en fin de mi-temps. Alberto, quelles belles sont à l'ouvrage. Voici quelles belles aux prises avec Bamana. Il ne sait que faire. Bamana renvoie par retrait. Dalla Cieca toujours lui reprend. Reviens un petit peu en arrière.
Un but partout et rien ne se passera jusqu'à la mi-temps.
Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont déterminé le choix du jury?
Bien, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret de l'Académie suédoise, mais je pense d'ailleurs sincèrement qu'il y a deux ou trois écrivains au moins qui méritaient d'être choisis avant moi. Mais puisqu'ils avaient décidé de nommer un écrivain français, peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement.
Eh bien, voici le miracle. Sizovski est fauché par Kelbel, c'est le pénalty qui va sauver le Racing. Car Grillet va le rater superbement et Monaco bat le Racing par 3-2.
Voilà le Nobel de littérature Albert Camus qui effectivement a été gardien de but. Il disait, ce que je sais de la morale, c'est au foot que je le dois et au théâtre, Daniel Picouli. Ouais. Incroyable ce personnage quand même.
Ouais. Oui, mais alors, le reportage est intéressant parce qu'il est très daté.
Oui.
Il est très daté dans le vocabulaire. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de Gaulle et on parle, même Camus, dit dans les bois. Et on disait ça à l'époque, le gardien de but, c'est celui qui était dans les bois, et on parlait de Gaulle. Et Albert Camus, ce qu'il a dit sur la morale de ce qu'il a appris sur un terrain de football et au théâtre, c'est assez juste, mais ça met beaucoup, beaucoup de temps à cheminer dans son esprit, dans sa tête. Ce que l'on apprend en temps réel, je vais dire, dans le sport, on se rend compte qu'après que ce sont des valeurs. C'est-à-dire que l'autre jour, sur une odeur, j'ai revu tous les crosses qu'on faisait, qu'on appelait les crosses du nombre quand on était gamin.
Sur
les crosses
odeur.
Du nombre, c'était... Oui, une odeur. Une odeur qui n'est pas forcément extrêmement agréable.
Ah bon?
C'est le viandox. C'est-à-dire que toute personne qui a fait du cross à mon époque, à la fin, il attendait avec impatience de faire la queue devant le petit bazar où on nous offrait un viandox brûlant. C'est dégueulasse, mais on en rêve. On en rêve. Et l'autre jour, cette odeur m'est revenue dans un bar, alors que ça, on ne vend plus de viandox, que c'est interdit, que c'est ce qu'il y a de pire. Tout m'est revenu et m'est revenu, ces crosses du nombre où on nous mobilisait parce que c'est l'école qui avait le plus d'engagés, qui gagnait une coupe, et puis on avait une breloque, des choses de genre-là. Et ça m'a replongé dans ces matins, le petit matin froid d'hiver où on va aider à tracer les lignes sur un terrain de foot, où on va mettre le filet, des choses de genre-là. C'est ça, moi, qui m'a toujours plu. Et là, ça va, la solidarité, on est une bande de copains. Et puis on va crier sous les fenêtres à un copain, il faut qu'il vienne parce qu'on n'est pas complet, on n'est pas complet pour l'équipe et on est là dans la cité, on gueule à la fête, viens parce que sinon on n'est pas complet. C'est des choses, moi, qui sont des vraies images, des vraies valeurs et des vrais souvenirs. Je sais seulement maintenant que c'est ce qui m'a fait.
Et ce qui est marrant, c'est que, pour revenir à Albert Camus, il disait que sa passion pour le foot, d'être un ancien gardien de but, quelque part, il y a eu un moment donné où il se sentait totalement en décalage avec le monde intellectuel, les salons parisiens.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, ou est-ce que ça bouge quand même, est-ce qu'il y a toujours une espèce de fermeture encore de l'intelligentsia culturelle, la littérature aussi, pour tout ce qui est sportif ou pas? Parce que vous avez écrit de nombreux ouvrages foot. Vous sentez, vous aussi, ce décalage un peu en se disant,
Je l'ai senti jusqu'en 98. La Coupe du Monde a fait beaucoup de bien à ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait toute une série de nouvelles dans l'équipe à l'époque, chaque jour une nouvelle. Et j'ai quand même eu le bonheur d'avoir un tirage à 1 million d'exemplaires pour la victoire de l'équipe de France. Mais cette dichotomie, cette distinction... est encore vivante, on le voit avec les Jeux Olympiques, c'est-à-dire le sport à l'école. Vous avez regardé nos champions, je ne parle pas seulement de Léo Marchand, ils vont aux États-Unis où ils vont être aidés pendant leur période sportive, dans leurs études, et après, ils auront accès aux universités américaines grâce aux performances qu'ils ont faites en sport.
Oui.
C'est pareil en football américain, c'est pareil.
C'est plus dans la culture anglo-saxonne que française alors?
Ah oui. Il n'y a aucun doute que cette distinction entre, le cerveau et les muscles, oui, elle est plus présente chez nous, l'éducation physique. Il y a eu plein de débats avant les Jeux Olympiques qui montraient que même ces 3 heures obligatoires d'éducation physique n'étaient pas assurées et que si on avait besoin d'une heure de disponible parce qu'il manquait une heure de rattrapage et tout ça, on prenait sur l'éducation physique. Non, il n'y a pas de valorisation et c'est très compliqué. On a fait de très beaux reportages avant les Jeux Olympiques sur ces milliards de performances qui doivent travailler alors qu'ils sont sélectionnés dans des équipes et qui peuvent nous rapporter des médailles.
Ouais.
Donc ça, on est, moi, à mon avis, très très en retard là-dessus. Oui, bien sûr.
D'ailleurs, vous, jeune, vous avez été orienté, je crois, vers un enseignement technique et pratique avec beaucoup de sport quand vous étiez plus jeune.
Mon cartable était un sac de sport. Moi, j'allais au lycée, je revenais des cours, je faisais Vitry, Choisy-le-Roi, je me retrouvais au parc de Choisy-le-Roi et je sortais mes affaires et je courais. Et à l'époque, quand on voyait quelqu'un courir le soir, parce qu'on allait courir le soir à la fraîche, quand on voyait quelqu'un au loin courir, on était sûr que c'était un gars de notre club. Personne ne courait, personne ne faisait du footing dans les rues, ça n'existait pas. Il n'y avait que des quelques dingues du Sporting Club de Choisy-le-Roi, grand club, mon club de jeunesse et de cœur. Oui, bien sûr. Tout ça a beaucoup changé. Oui. Moi, j'habite pas très loin du Luxembourg. Si je vais au Luxembourg, je ne suis que bousculé par cette espèce d'anneau infernal de gens qui tournent, qui courent. Et c'est formidable. Mais il faut que l'école relaie ça et donne sa chance aux gosses, quoi, parce que.
Et l'esprit, les jambes. Et voilà.
Oui.
Ouais, encore un peu de boulot là-dessus, ouais. Oui.
Mais oui, on avait une très belle émission qui s'appelait La Tête et les Jambes à l'époque.
Mais évidemment, La Tête et les Jambes, évidemment. Et nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Daniel Picouli. On parlait des grands moments légendaires. Forcément, tout à l'heure, on a parlé de la Coupe du Monde en 98. Parmi des grands matchs que personne n'a oubliés, là, on est en 2006, lors de la finale de la Coupe du Monde de foot. Et là, personne n'avait prévu ce qui allait se passer.
Tiens, on voit Zizou. Oh Zinedine,
pas ça Zinedine,
non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe.
Non mais ça se fait pas, ça peut pas se faire.
Il va sortir un carton, Zidane. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible.
Oui, il n'y a même pas lieu de contestation.
Mais non, on peut pas contester. Sauf, même s'il s'est passé des choses avant, Zinedine ne doit pas répondre, ne doit pas mettre ce coup de tête. C'est pas vrai, c'est son dernier match, c'est la finale de la Coupe du Monde.
Eh oui, le coup de boule de Zizou, sous les sifflets, même les commentateurs sportifs sont atterrés.
Sur Materazzi, oui. Ouais.
Voilà, oui, exactement. Ouais. Vous en souvenez de ce moment-là?
Oh, bah, bien sûr. Après, on revoit, c'est le replay qui nous fait voir ce coup de tête. C'est que c'est contre la poitrine de Materazzi qui fait, il ne donne pas un coup de boule, comme on dit aujourd'hui.
Voilà.
et c'est un des grands mystères du sport. Qu'est-ce que Materazzi a dit à Zidane pour que ça le fasse sortir comme ça, pas seulement de ses gonds, mais de son rôle emblématique, de joueur emblématique et exemplaire. Voilà, c'est comme ça.
Entre-temps, il s'est excusé malgré tout. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, notamment auprès des jeunes, il y a la notion d'exemplarité forcément des
champions. Oui, mais aujourd'hui, qui on le reproche à Zidane, oui. Il est extraordinaire, il y a un dieu dans le film sur la présentation des Jeux Olympiques avec Jamel Debbouze, oui. Ils sont tous les deux images d'ailleurs populaires, et Zidane est présenté en dieu parce qu'il y a longtemps que le pardon est passé sur lui de la part des gens qui aiment le sport et qui aiment aussi cet homme, quoi. Ouais, c'est tout, parce qu'il a fait des tas et des tas. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer dans des missions auprès des enfants, des jeunes gens, animer une dictée, des choses de genre. J'ai vu tout ce qu'il a fait. Il y a un moment, et c'est juste un moment, mais ça, enfin pour moi, dans mon cœur, ça ne retire rien à Zidane. C'est juste ce que je peux dire.
Dites-moi, la semaine dernière, on avait pour inviter également à votre place l'acteur Charles Berling, qui lui voilà, est convaincu que la culture populaire comme le sport sont des vraies boussoles pour nous rassembler en ces temps divisés. C'est votre avis aussi, à vous?
Bien sûr, parce que ce sont des boussoles, parce que de fait, on sait très bien qu'aujourd'hui, le sport étant, j'allais dire, c'est le normal sup de beaucoup de gosses de banlieue, le sport. Hein. C'est grâce au sport. Oui, bien sûr, qu'ils vont devenir quelqu'un, ils en feront je ne sais pas quoi, mais qui auront les moyens et l'exposition pour le devenir. Donc, considérer que le sport, aujourd'hui, regardons les équipes, tout simplement, mais regardons la composition des équipes de France. Ce serait complètement ridicule que prôner l'exclusion d'eux, ça n'a pas de sens. Et qui plus est, je suis certain que beaucoup de gens qui des fois sont un petit peu dans le discours réservé par rapport à, ils sont dans la tribune, ils sont aujourd'hui devant les émotions des Jeux Olympiques, ils sont pris, et ce jour-là, ils oublient ce qu'il en est. Ils voient évoluer des gens qui donnent une image de leur pays, de leur culture, avec laquelle ils adhèrent. Ouais. Ils sont un peu différents d'eux, mais ils adhèrent. Voilà. Mais ça, c'est plutôt réjouissant. Ça n'empêche pas toutes les crispations par ailleurs. Et puis, vous savez, là, aujourd'hui, hier, le bashing,
oui, ça fait partie du truc.
Avant, on avait des meilleurs ennemis. On avait des meilleurs ennemis qu'on aimait bien, c'était l'Angleterre, tout ça. Dernièrement, c'est un peu l'Argentine, tout ça. Bah, c'est comme ça. Voilà, c'est tout.
Daniel Picouli, pour terminer, un tout petit quiz rapide pour savoir quel esprit sportif vous êtes. Est-ce que pour vous, l'essentiel, c'est de gagner ou c'est de participer ?
Oh non, moi, c'est participer, hein, gagner, je veux toujours gagner. Ah. Mais j'ai passé des concours, tout ça. Je veux gagner parce que je trouve que c'est une ligne d'horizon que vous fixez qui est valorisante et puis qui est vivifiante. C'est tout. C'est une ligne d'horizon que vous fixez. C'est pas une prétention. C'est une ligne d'horizon et vous espérez être aspiré par cette ligne d'horizon. C'est tout.
C'est quoi la beauté d'un geste pour l'écrivain que vous êtes ?
Ah, la beauté d'un geste, c'est ce bonheur. À l'âge que j'ai, qui est, je crois, plus proche de 75 ans que du reste, c'est de pouvoir mettre, grâce à son ordinateur ou son stylo, un but en pleine lucarne en finale de la Coupe du Monde de football. Voilà. Ça, je peux le faire tout de suite. Je peux aller à mon bureau là et faire une reprise de volée absolument merveilleuse qui va faire se soulever le stade. Ça, je peux.
La plus belle valeur du sport à vos yeux ?
La plus belle valeur, savoir perdre.
Ah.
Ah, savoir perdre, parce que c'est là qu'on apprend le plus. Savoir perdre, c'est pas normal, mais ouais, savoir perdre, et ça nous servira dans beaucoup, 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 parce qu'il n'existe pas un champion, même le plus gros champion de tous les temps, qui n'a pas perdu un moment, et c'est même parfois la grandeur du crépuscule des champions. Alors, vaut mieux se préparer à ce crépuscule-là. Sinon, il risque d'être douloureux.
Merci beaucoup pour cet instant magique avec vous, Daniel Picouli.
Merci à
beaucoup,
vous.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Je suis trop sexy, maman. On a sorti le coup de pied par la ouais. Moi, je te mens pas. J'ai accéléré. Tu racontes toute ta vie, c'est du blabla. Je t'as pas les épaules, je suis déjà jolie nana. J'ai pas le temps pour toi, je crois j'ai décalé. Le rage sur mon dos. Nouvelle Sassène, nouveau Merco. Je vais danser tout le bendo. Baby, maman veut des euros. Bébé, tu me donnes ton cœur, mais je sais pas quoi en faire, mon bébé. Papa, mon bébé. J'ai fait du pif, mais c'est trop bébé. Beaucoup, beaucoup, j'ai la flemme de tout compter. Papa, mon bébé. Le rage sur mon dos. Nouvelle Sassène, nouveau Merco. Je vais danser tout le bendo. Baby, maman veut des euros. Tu voulais me voir comme ça.
C'était Shai avec Temini sur RFI. De vive voix, c'est fini. Merci ma belle équipe olympique. Sophie Jeannin à la réalisation, Mehdi Jaziri à la rédaction. On se retrouve demain à la même heure avec la comédienne de théâtre Élodie Menant. Dans sa pièce Je ne cours pas, je vole, elle met en scène des athlètes réels ou imaginaires qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. On parlera théâtre sportif demain dans De vive voix. Belle journée à vous et à demain.